Amy Elliott June. 5 juillet 2010. Journal. Je ne vais pas rejeter la responsabilité sur Nick. Je ne tiens pas Nick pour responsable. Je refuse. Refuse de devenir une fille insolente, acariâtre, hargneuse. Je me suis fait 2 promesses quand j'ai épousé Nick. 1. Je n'exigerai jamais qu'il se comporte comme un singe savant. 2. Je ne dirai jamais, au grand jamais, « Bien sûr, ça ne me dérange pas. Si tu veux rentrer plus tard, si tu veux te faire un week-end avec tes potes, si tu veux faire quelque chose dont tu as envie, pour ensuite le punir d'avoir fait une chose dont j'avais dit qu'elle ne me dérangeait pas. Or, je crains de m'approcher dangereusement de la rupture de ces 2 promesses. Mais bon, c'est notre 3e anniversaire de mariage. Et je suis toute seule dans notre appartement, le visage bouffi de larmes. Pourquoi ? Eh bien voilà. Cet après-midi, j'ai un message de Nick, et je sais déjà que ça ne va pas être une bonne nouvelle. Je le sens à la seconde où le message commence, parce qu'il appelle de son portable, et j'entends des voix d'hommes en arrière-fond. Et là, un grand blanc, palpable, comme s'il essayait de trouver ses mots. Puis sa voix assourdie par les échos du taxi, une voix que l'alcool a déjà rendue humide et paresseuse. Et je sais que je vais me mettre en colère. Ce bref reniflement, les lèvres qui se serrent, les épaules qui se contractent, cette petite voix qui dit « Je n'ai vraiment pas envie de me mettre en colère, mais je n'ai pas le choix. » Est-ce que les hommes connaissent cette impression? Vous ne voulez pas vous mettre en colère, mais vous y êtes obligés, pour ainsi dire. Parce qu'on attend à une règle, à une bonne règle, à une règle aimable. Ou peut-être que « règle » n'est pas le bon mot. Le protocole, l'usage. Mais si on attend à la règle, au protocole, à l'usage, notre anniversaire, c'est pour une bonne raison. Je comprends vraiment. Les rumeurs se sont vérifiées. 16 auteurs ont été licenciés du magazine de Nick. 1/3 de la rédaction. Nick a été épargné, pour l'instant. Mais bien sûr, il se sent obligé de leur payer une cuite. Ce sont des hommes qui descendent la 2e avenue, entassés dans un taxi, en faisant semblant d'être courageux. Quelques-uns sont entrés retrouver leur femme, mais un nombre étonnant d'entre eux sont toujours de la partie. Nick va passer notre soirée à payer des coups à ces hommes, à aller dans des clubs de striptease et des bars ringards, à flirter avec des nanas de 22 ans. Mon pote vient de se faire licencier, un petit câlin lui ferait pas de mal. Ces hommes sans travail vont déclarer que Nick est un type extra, tandis qu'il paiera leur verre avec une carte de crédit reliée à mon compte bancaire. Nick va vivre son heure de gloire pour notre anniversaire, qu'il n'a même pas mentionné dans le message. À la place, il a dit « Je sais qu'on avait des projets, mais… » Je fais mon caprice de nana. Je pensais simplement que ce serait une tradition. Dans toute la ville, j'ai semé des petits mots d'amour, des souvenirs de l'année que nous venons de passer ensemble, ma chasse au trésor. Je vois parfaitement le 3e indice qui ondule au bout d'un morceau de scotch accroché à la fourche du V de la sculpture Love de Robert Indiana, près de Central Park. Demain, un touriste de 12 ans qui se traîne nonchalamment derrière ses parents va le décrocher, le lire, hausser les épaules et le jeter au vent comme un emballage de chewing-gum. Le final de ma chasse au trésor était parfait, mais il ne l'est plus. C'est une serviette vintage absolument sublime, en cuir. Le 3e anniversaire, c'est le cuir. Un cadeau professionnel. Ce n'est pas une très bonne idée, étant donné que tout ne va pas franchement bien au boulot en ce moment. Dans notre cuisine, j'ai 2 homards vivants, comme toujours. Ou comme ce qui était censé être toujours. Il faut que j'appelle ma mère pour lui demander s'ils peuvent se garder une journée à se traîner et hébétés dans leur carton, ou si je dois intervenir, et avec mes yeux brouillés par le vin, les assommer et les faire bouillir dans ma marmite sans raison valable. Je tue 2 homards que je ne mangerai même pas. Papa a téléphoné pour nous souhaiter un bon anniversaire. Et quand j'ai décroché, je voulais jouer la décontraction. Mais j'ai commencé à pleurer aussitôt que j'ai ouvert la bouche. J'ai parlé d'une voix entrecoupée de sanglots, comme une bonne femme hystérique.
« Moi, moi !»
Alors il a fallu que je lui dise ce qui s'était passé. Et il m'a dit que je devrais ouvrir une bouteille de vin et m'autoriser à pleurer un peu sur mon sort. Papa a toujours été partisan d'une bonne séance d'auto-apitoiement. N'empêche, Nick va être fâché que je l'ai dit à Rand. Et bien sûr, Rand va prendre son attitude paternelle, lui tapoter le bras et lui dire « Alors Nick, il paraît que t'as été retenu par une cuite urgente le soir de votre anniversaire. » Et glousser. Ainsi Nick saura, et il sera fâché contre moi. Parce qu'il veut que mes parents croient qu'il est parfait. Il est aux anges quand je leur raconte des histoires montrant quel beau fils irréprochable il est. Sauf ce soir. Je sais. Je sais, je fais un caprice de petite fille. Il est 5 heures du matin. Le soleil se lève à peine, il n'est guère plus vif que les réverbères qui viennent de s'éteindre. J'aime toujours cet instant de transition, quand je suis réveillée pour en profiter. Parfois, quand je n'arrive pas à dormir, je me tire du lit et je vais marcher dans les rues au point de l'aube. Et quand les lumières s'éteignent tout ensemble, j'ai toujours l'impression d'avoir assisté à un spectacle extraordinaire. Oh ! Les réverbères s'éteignent. Et j'ai envie de claironner. À New York, l'heure la plus tranquille, ce n'est pas 3 ou 4 heures du matin. Il y a trop de poivrots qui sortent des bars et s'interpellent bruyamment en s'effondrant dans des taxis, qui glapissent dans leur portable, en tirant frénétiquement sur leur dernière cigarette. 5 heures, c'est la bonne heure, où le clic-clac de vos talons sur la chaussée semble illicite. Tous les gens sont rangés dans leur boîte et vous avez tout l'espace pour vous. Nick est rentré juste après 4 heures, avec autour de lui une bulle d'odeur de bière, de cigarettes et d'œufs frits, un placenta de puanteur. J'étais encore réveillée, je l'attendais. J'avais le cerveau en bouillie, après avoir enchaîné les épisodes de New York Unité Spéciale toute la nuit. Il s'assoit sur notre ottomane, jette un regard au cadeau sur la table et ne dit rien. Je le dévisage à mon tour. De toute évidence, il ne va même pas tenter d'effleurer le début d'une excuse. Et désolé que ça ait merdé aujourd'hui. C'est tout ce que je demande, qu'il reconnaisse brièvement le fiasco. Je commence. Bon lendemain d'anniversaire. Il pousse un soupir, un gémissement de courroux. Amy, j'ai passé la journée la plus merdique de ma vie. Tu ne vas pas en plus me culpabiliser, s'il te plaît. Nick a grandi avec un père qui ne s'est jamais, au grand jamais, excusé de sa vie. Aussi, lorsque Nick a l'impression d'avoir fait une connerie, il passe à l'attaque. Je le sais, et en général, j'arrive à attendre que ça passe. Je disais juste bon anniversaire. Bon anniversaire, mon connard de mari, qui m'a négligé un jour si important pour moi. Nous gardons le silence pendant une minute. Mon estomac se noue. Je n'ai pas envie de jouer le mauvais rôle. Je ne mérite pas ça. Nick se lève. Alors, c'était comment ? Je demande d'un ton morne. C'était comment ? C'était atroce, putain. 16 de mes amis se retrouvent sans boulot. C'était la misère. D'ici à quelques mois, je vais sans doute passer à la trappe aussi. Ses amis. Il n'apprécie même pas la moitié des mecs avec qui il est sorti ce soir, mais je ne dis rien. Je sais que ça semble catastrophique pour l'instant, Nick, mais ce n'est pas catastrophique pour toi, Amy. Pour toi, il n'y aura jamais de catastrophe. Mais pour nous autres, c'est très différent. Le même vieux discours. Nick m'en veut parce que je n'ai jamais eu à m'en faire pour l'argent. Et que je n'aurai jamais à m'en faire. Il pense que ça me rend plus molle que tous les autres. Et je ne dis pas le contraire. Mais je travaille. Je pointe matin et soir. J'ai des copines qui n'ont littéralement jamais travaillé de leur vie. Elles parlent des gens qui travaillent avec le même ton de commisération qu'on emploie pour parler d'une fille grosse qui a un si joli visage. Elle se penche en avant et murmure « Mais bien sûr, Hélène est obligée de travailler. » Comme si elle se croyait dans une pièce de Noël Coward. Elle ne me compte pas parce que je peux toujours quitter mon boulot si j'en ai envie. Je pourrais construire mes journées autour des œuvres caritatives, de la décoration d'intérieur, du jardinage et du volontariat. Et je ne vois pas qu'il y ait de mal à construire sa vie autour de ces choses. La plupart des belles choses, des choses bonnes, sont faites par des femmes que tout le monde méprise. Mais je travaille. Nick, je suis de ton côté, là. On va s'en sortir quoi qu'il arrive. Mon argent est aussi à toi. Ce n'est pas ce que dit le contrat de mariage. Il est sous. Il n'évoque le contrat de mariage que quand il est sous. Là, tout le ressentiment ressort. Je lui ai dit des centaines, littéralement des centaines de fois. Le contrat de mariage, c'est juste une formalité administrative. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est même pas pour mes parents. C'est pour les avocats de mes parents. Ça n'a rien à voir avec nous, avec toi et moi. Il va à la cuisine. Jette son portefeuille et ses billets froissés sur la table basse, chiffonne un bout de papier arraché à un carnet et le met à la poubelle avec une série de reçus de cartes de crédit. C'est nul de dire ça, Nick. C'est nul de se sentir comme ça, Amy. Il se dirige vers notre bar. Cet ivrogne avec sa démarche précautionneuse et chaloupée, et se verse un autre verre, carrément. « Tu vas te rendre malade, dis-je. » Il lève son verre, façon de me dire que je peux me le coller où je pense, à la tienne. « Tu comprends pas, Amy. Tu peux pas comprendre. Je bosse depuis que j'ai 14 ans. J'ai pas fait des putains de stages de tennis ou d'écriture. J'ai pas fait de préparation au concours d'entrée aux universités. » Et toute cette merde qu'apparemment tout le monde fait à New York. Parce que j'essuyais des tables au centre commercial. Je tondais des pelouses. J'allais à Hannibal en bagnole, habillée comme Hank Finn, putain, pour amuser les touristes. Et à minuit, j'astiquais des poils à frire. J'ai ressenti un besoin pressant de rire, de m'esclaffer purement et simplement. Un gros rire énorme qui déconcerterait Nick. Et bien vite, nous nous retrouverions à rigoler tous les deux et ce serait fini. Cette litanie de boulot de merde. Être mariée à Nick me rappelle toujours une chose. Les gens sont obligés de faire des choses terribles pour de l'argent. Depuis notre mariage, je fais toujours un petit signe aux gens qui sont déguisés en hamburger ou en hot-dog pour filer des prospectus. Il a fallu que je bosse beaucoup plus dur que tous les autres rédacteurs, ne serait-ce que pour entrer au magazine. Ça fait 20 ans, pour ainsi dire, que je bosse pour en arriver là où je suis. Et maintenant, tout ça va partir en fumée. Et je ne sais absolument rien foutre d'autre, à moins de rentrer faire le rat des fleuves chez moi. T'es sans doute trop vieux pour jouer Huck Finn ? Va te faire foutre, Amy. Puis, il est allé dans la chambre. Il ne m'avait jamais dit ces mots auparavant. Mais ils sont sortis avec un tel naturel que, je suppose, et je ne l'aurais jamais cru, il les avait déjà pensés, souvent. Je n'aurais jamais cru que je serais le genre de femme à qui son mari dit d'aller se faire foutre. Et nous nous sommes jurés de ne jamais aller se coucher fâchés. Faire des compromis, communiquer, et ne jamais se coucher fâchés. Les trois conseils qu'on donne et redonne à tous les jeunes mariés. Mais ces derniers temps, on dirait que je suis la seule qui fait les compromis. Que nos échanges ne résolvent rien et que Nick est très fort pour aller se coucher fâché. Il peut refermer ses émotions comme un bec. Il ronfle déjà. Et là, je ne peux pas m'en empêcher. Même si ça ne me regarde pas, même si Nick serait furieux de l'apprendre, je me dirige vers la poubelle et je sors les reçus, histoire de me représenter où il a passé la soirée. Deux bars, deux clubs de striptease. Et je l'imagine parfaitement dans chacun de ces lieux, en train de parler de moi avec ses amis. Parce qu'il a déjà dû parler de moi. Pour que cette méchanceté mesquine, avilissante, lui vienne si facilement. Je me les imagine dans un des clubs de striptease les plus chers de la ville. Ces clubs chics qui laissent croire aux hommes qu'ils sont toujours destinés à faire la loi, que les femmes sont faites pour les servir, avec une acoustique volontairement dégueulasse, et une musique assourdissante de sorte que personne n'ait besoin de parler. J'imagine une femme au nichon rebondi qui chevauche mon mari, qui jure que c'est juste pour rigoler. Ses cheveux qui tombent en cascade dans son dos, ses lèvres humides de gloss. Mais je ne suis pas censée y voir une menace, non. C'est juste pour rigoler. Je suis censée en rire. Je suis censée être une bonne camarade. Et là, je défroisse la page de carnet arrachée et j'y découvre une écriture de fille. Anna. Et un numéro de téléphone. Et je voudrais que ce soit comme au cinéma. Que ce soit un nom grotesque. Candy ou Bambi. Un nom qui vous fasse lever les yeux au ciel. Misty, avec des cœurs en guise de points sur les i. Mais c'est Anna. Soit une vraie femme. Sans doute pareille à moi. Nick ne m'a jamais trompée, il l'a juré. Mais je sais également qu'il en a largement l'occasion. Si je l'interrogeais sur Anna, il répondrait « Je ne sais pas du tout pourquoi elle m'a filé son numéro. Mais je ne voulais pas être grossier, alors je l'ai pris. » Ce qui peut être vrai. Ou pas. Il pourrait me tromper, et il ne me le dirait jamais. Et il m'estimerait de moins en moins, chaque jour, de ne pas découvrir la vérité. Il me verrait en train d'avaler innocemment mes céréales à la table de la cuisine. Et il saurait que je suis une imbécile. Or, comment peut-on respecter une imbécile ? Et maintenant, je pleure de nouveau, avec Anna dans la main. C'est très féminin, n'est-ce pas ? De prendre une virée entre mecs et de la grossir en infidélité conjugale qui va détruire notre mariage. Je ne sais pas ce que je suis censée faire. J'ai l'impression d'être une marchande de poissons braillarde ou un paillasson niais. Et je ne veux pas me mettre en colère. Je n'arrive même pas à décider si je dois me mettre en colère. J'envisage d'aller passer la nuit à l'hôtel, de le laisser s'inquiéter pour moi, pour changer. Je reste où je suis pendant quelques minutes, puis je prends une profonde inspiration et je me risque dans la vapeur alcoolique de notre chambre. Et quand je me mets au lit, il se tourne vers moi, me prend dans ses bras et enfouit son visage dans mon cou. Et en même temps, nous disons tous deux « Je suis désolée ».